Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons un texte tiré du média suivant. Nouveau projet. Au programme, les voici, mes enfants. Bonne écoute.
Les voici, mes enfants. Un texte de Christa Couture, traduction par Catherine Ego, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau projet. Les questions toutes simples appellent parfois des réponses d'une complexité insoupçonnée. Dans son tout premier livre, Christa Couture raconte la perte et ce qui peut encore exister dans son sillage. Considérez dans ce texte. Rester parent malgré la mort de ses enfants. Les vérités de circonstances. La mémoire du corps. La diversité des interactions humaines et la tolérance au drame. La compassion comme apprentissage de la souffrance. Une sage-femme m'a dit un jour qu'avant d'avoir donné la vie, l'orifice externe du col de l'utérus ressemble à un point. Au premier accouchement vaginal, il prend pour toujours la forme d'une fente. J'étais ravie d'apprendre que le corps garde en lui, à jamais, cette trace discrète, cette preuve indélébile du passage de l'enfant. Je ne savais pas encore que la grossesse et la naissance laisseraient sur moi d'autres empreintes bien plus apparentes. Un ventre marbré de vergetures, courte pointe de sillons enchevêtrés, un nombril saillant, des seins moins opulents après l'allaitement. Je ne savais pas encore qu'un jour, je chérirais ces marques, qu'elles me deviendraient nécessaires. Aujourd'hui, j'aime cette cartographie sur ma peau, ces signes qui rappellent « Tu as vécu ici, ici et ici », qui affirme, plus visiblement qu'un petit point en moi transformé en fente, l'existence des enfants que j'ai portés, qui atteste que je suis bien leur mère. J'ai des photos de mes fils, bien sûr, mais elles semblent parfois tellement irréel. Sur ces images numériques et ces impressions sur papier glacé, la femme qui tient ses enfants contre elle me ressemble beaucoup. Néanmoins, ces clichés peuvent attiser en moi des doutes abyssaux. Assoiffée de tangibles et de temps présent, je soulève alors mon chandail et j'effleure mon ventre encore si rond qu'il passe à l'occasion pour une promesse d'accouchement prochain, avec ses vergetures, son nombril saillant. Oui, ils ont vécu ici. « Vous avez deux enfants ?» me demanda-t-elle. C'était en 2011 et nous venions à peine de nous rencontrer. Assise à côté de moi, l'amie par laquelle nous avions fait connaissance parut soudainement mal à l'aise. La femme avait dû lire mon parcours biographique sur le web, avait retenu qu'il signalait une pause de 2 ans pour la naissance de son deuxième enfant, ignorait qu'il taisait les vraies raisons pour lesquelles j'avais délaissé la scène un certain temps. Mon amie nous regardait nerveusement à tour de rôle. La femme commençait à s'interroger, se troublait. « Non !» souffla mon amie. Elle voulait tirer un trait définitif sur le sujet, pour me protéger, je le savais. Mais j'étais bien assez grande pour répondre moi-même. « Oui, » dis-je, « j'ai 2 enfants. » Ma réponse, à l'époque, évoluait au gré des circonstances. L'été suivant, dans les coulisses d'un festival de musique, une autre artiste programmée ce jour-là s'est mise à me parler de ses enfants, des difficultés logistiques auxquelles elle se heurtait pour les emmener avec elle, des hauts et des bas du camping de tournée. Puis, comme on le fait souvent en pareilles circonstances, elle me demanda « Et toi, tu as des enfants ?» Une invitation à un échange d'anecdotes parentales. « Non, pas d'enfants », ai-je rétorqué. Je n'avais pas d'enfants à caser de gré ou de force dans mes valises, à faire manger en toute hâte. Voilà ce que je voulais dire, car tel était le sens de sa question, je crois. Cependant, même quand je m'y résignais pour faire rempart contre l'intrusion, mon mensonge m'écorchait, puis m'égarait sur des chemins de traverse. Je me demandais où la conversation nous aurait menés, si j'avais répondu oui. Je me sentais coupable d'avoir nié. « Je ne vous ai pas oublié, mes chers petits. » Je ne saurais dire combien de fois on m'a posé la question, frontalement ou de manière oblique. « Avez-vous d'autres enfants ?» Prise de court, je sursautais, je grimaçais. J'échafaudais rapidement ma réponse en m'efforçant d'anticiper les interrogations qu'elle soulèverait, les réactions qu'elle susciterait. En un éclair, je devais aussi jauger une personne que je connaissais à peine, estimer ses dispositions intérieures et sa tolérance au chagrin, prédire son comportement le plus probable, de l'impassibilité au gros câlin. J'essayais d'évaluer à la volée le degré de convergence entre nos croyances, nos sensibilités, nos assises. Au groupe de soutien pour parents endeuillés de la maison de soins palliatifs pédiatriques Canuck Place de Vancouver, nous nous sommes maintes fois interrogés sur la meilleure façon de répondre à cette question. Comme il le faisait souvent, l'animateur, qui intervenait depuis une quinzaine d'années auprès de parents d'enfants mourants ou décédés, nous a cité un jour une ancienne membre de cet étrange club dont personne ne souhaite faire partie. Quand on lui demandait si elle avait des enfants, elle affirmait « C'est une question qui devrait être toute simple, mais qui ne l'est pas pour moi. » Son interlocuteur ou interlocutrice changeait alors de sujet ou insistait selon le cas. Cette femme avait finalement trouvé une réponse qu'elle estimait authentique et juste, une formule montrant que la question n'appelle pas nécessairement un simple oui ou non, que cela dépend du point de vue et qu'il peut changer en un instant, y compris le sien. Souvent, s'ils répondent par la négative, les parents qui ont perdu un enfant ont l'impression de mentir. Mais à l'inverse, une réponse positive risque de les happer dans un labyrinthe harassant d'étonnement et d'élucidation. Pour une autre mère endeuillée, un oui clair et net s'imposait. Et quand, invariablement, on lui demandait « Combien ? Quel âge ?» elle précisait « Une fille. Elle aurait 5 ans maintenant. » Sans fléchir, sans vaciller. Moi, je n'en ai pas toujours eu la force. Néanmoins, est-ce que j'ai des enfants? Oui. Combien? 2. Quel âge? Emmett aurait 13 ans maintenant et Ford, 11. Chaque année, l'information devient caduque. Même à l'instant où j'écris ces lignes, je sais que je voudrais y revenir. Les actualiser, vous les redire. Souvent, je trouvais éprouvant de répondre par la négative, comme si je niais ce que j'avais de plus cher, comme si je trahissais mon rapport au monde. Mais c'était parfois le prix à payer pour me mettre à l'abri des questions et des remarques que je ne voulais pas entendre. Et souvent, je trouvais exténuant de répondre par l'affirmative, d'avoir à expliquer. Dans certains cas, je me retrouvais contrainte de consoler la personne qui m'avait posé la question. Face à son embarras, ses regrets, j'étais spontanément tentée de la rassurer. « Excusez-moi, » disait-elle. « Non, ça va. Pas de problème. » Mais au fond, l'échange me laissait un goût amer. D'autres suscitaient en moi plus d'aigreur encore, et je n'en suis pas fière. Car il m'est arrivé de me délecter du malaise de l'autre. « Tu peux bien avoir honte de ta question. Oui, te désoler de la mort de mes enfants. Moi, je la pleure tout le temps. » Colère. Souffrance. Du tac au tac, je répliquais « Oui, mais ils sont morts. » Puis je contemplais l'autre, s'empêtrer dans son trouble. Ses excuses. « Non, je n'ai pas d'enfant. » Selon la manière dont elle est prononcée, cette petite phrase peut s'avérer tout aussi dédaigneuse, acrimonieuse et brutale que la précédente, et produire les mêmes effets. Cela fait maintenant 13 ans qu'Emmett est mort, et je n'ai toujours pas trouvé de réponse acceptable. Si l'on considère la diversité des interactions humaines, il n'en existe sans doute aucune qui puisse convenir en toute situation. Les voici, mes enfants. Un texte de Krista Couture, traduction par Catherine Ego, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau Projet. 2013. Autour de la table, les convives ont sorti leur cellulaire et se montrent fièrement les photos de leurs enfants. Je porte au cou un médaillon contenant des photos de mes fils. Je l'ouvre, rayonnante du bonheur d'évoquer mes superbes petits, mais hésitante aussi, redoutant la fracture, craignant d'ouvrir un gouffre entre les autres et moi. Lui, c'est Emmett, et lui, c'est Ford. Je ne souhaitais pas en dire plus. Comme tout le monde, je voulais seulement exprimer l'amour et l'orgueil que nos enfants nous inspirent. Les photos montrent mes fils intubés. Un petit tuyau de plastique enfoncé dans leur trachée permet à l'air d'entrer dans leurs poumons. Comme on dit communément, ils sont sous respirateur artificiel. Hospitalisés. Autour de moi, l'agitation est tombée d'un coup. Sur les photos, la plupart des gens ont d'abord vu l'appareillage médical. Moi, j'y vois Emmett. J'y vois Ford. Puis, il a fallu dire qu'ils étaient morts, et une chape de plomb s'est abattue sur l'assemblée. Ce n'était pas mon intention. Souvent, c'est à ce moment-là que la rupture s'opère, que le fossé se creuse. Pourtant, comme les autres parents, j'aime mes fils de toute mon âme. Je suis fière d'eux, tout comme s'ils étaient vivants. C'est simplement de cela que je voulais témoigner. Sur leurs photos, je ne voyais pas les tuyaux qui les gardaient en vie. J'y voyais Emmett, l'aîné, ses cheveux foncés, sa carrure costaude, près de 5 kilos à la naissance, blotti dans mes bras. J'y voyais sa venue au monde, si longuement attendue. J'y voyais mon cœur métamorphosé pour toujours. Et puis, j'y voyais Ford et ses cheveux blonds vénitiens duveteux, son grand sourire joyeux. J'y voyais son bonheur. J'y voyais sa douleur. J'y voyais sa force levée dans sa candeur de nouveau-né. Et je nous y voyais, remplis d'expectatives et d'espoir. C'était génétique? Demandaient les gens. La plupart d'entre eux peinaient à croire qu'il était possible, en Occident, de perdre deux enfants sans qu'il y ait quoi que ce soit qui cloche? Cette question me mettait hors de moi. J'avais l'impression d'être accusée d'un manquement quelconque. Je me suis entraînée à répondre. Ils sont morts à des moments différents et de causes différentes. Parfois, et même si c'était sans doute inutile, j'insistais sur le caractère aléatoire de leur mort, de causes différentes et sans lien entre elles. « Ce n'est pas de ma faute », me disais-je, tandis que les gens s'interrogeaient sur les causes de ces deux tragédies. J'empilais des sacs de sable autour de moi pour endiguer le tsunami de ma propre sidération. Car moi-même, très longtemps, j'ai été convaincue que Ford survivrait à sa maladie cardiaque congénitale. Il était tellement invraisemblable que l'on puisse perdre deux enfants de suite. Dès le début de ma grossesse, mon entourage m'avait d'ailleurs répété que ça ne pouvait pas se reproduire. Ça, la mort. Dans des conversations imaginaires, je leur assurais ensuite d'un ton sinistre qu'ils avaient raison. L'événement ne s'était pas reproduit, puisque mon deuxième fils n'était pas du tout mort de la même façon que son frère. Apprenant ce qui était arrivé à mes fils, les convives qui se montraient des photos m'ont tout de suite considéré différemment, ont pris leur distance pour ne pas me ressembler. Plusieurs, vivant sans doute dans la peur constante de perdre leurs propres enfants, ont détourné leur regard de moi, de mon drame. Je comprenais. D'autres estimaient que je n'avais rien de commun avec eux. Eux, les parents d'enfants vivants. J'ai eu le sentiment que certains cherchaient à changer de sujet. D'autres, qui leur en voulaient peut-être, ou s'en voulaient, de l'éluder, ont pu me trouver morbide d'avoir évoqué mes bébés et ont soudainement vacillé à l'idée que les leurs puissent leur être ainsi arrachés. Je m'accrochais aux quelques visages qui me témoignaient de l'empathie. Je luttais de toutes mes forces pour ne pas contre-attaquer face au malaise que j'avais pu susciter dans le groupe. Écartelée entre mes velléités de riposte et ma tristesse d'être rejetée, je n'arrivais plus à penser. J'aurais voulu leur dire que j'étais comme eux, comme elles, que j'étais mère, moi aussi. Que ma relation avec mes fils n'avait pas fini à leur dernier souffle. Qu'aujourd'hui encore, je pensais toujours à eux, parfois dans la joie et la reconnaissance, parfois dans le manque et le chagrin. Même quand ils ne sont plus là, les enfants occupent beaucoup de temps et d'espace dans la vie de leurs parents. « Je ne suis pas différente de vous », ai-je pensé, en refermant le médaillon, et je l'ai serré contre mon cœur. Le radar dans mon ventre, c'est surtout à la naissance de Ford que je l'ai senti. L'unique journée qu'a duré la vie d'Emmett avait été emplie d'un tel chaos que cette sensation n'avait pas réussi à s'implanter. La certitude profonde que j'étais un phare dont l'œil fouillait l'obscurité, appelant les voyageurs. Ford, j'aurais pu le repérer en pleine noirceur. Il a passé la majeure partie de ses nuits à plusieurs rues de chez moi, veillé par l'unité de soins intensifs. Je savais pourtant qu'à chaque instant, je saurais marcher les yeux fermés sur des kilomètres pour le retrouver, guidé par le fil invisible qui nous attachait l'un à l'autre. Tout le temps qu'il a vécu, j'ai perçu ce signal radar, cette preuve qu'il était bien là, en sécurité sur l'océan. Après sa disparition physique, mon fils a continué de battre en moi comme un membre fantôme. Et même si je le savais parti, mon radar maternel n'a jamais cessé de l'appeler. Soudainement, je m'engouffrais dans les ténèbres et j'en revenais dévasté, qu'il ne m'ait pas répondu. C'était parfois cela qui me faisait le plus mal, cette conscience aiguë, physique de son absence. Il n'est plus là, me disais-je, pour raisonner l'instinct animal qui le cherchait encore, qui les cherchait tous deux, sans discontinuer. Mais comment amener l'inné, le viscéral, à la raison? Au cimetière, devant ce qu'il reste physiquement d'eux, cette quête incessante s'apaise. La main sur leur pierre tombale, je pourchasse une preuve additionnelle de leur présence dans ma vie. Pour la même raison que je parcours les vergetures de mon ventre du bout des doigts, je me penche sur leurs cendres nichées sous la pierre et je souffle vers eux. « Ce n'est pas grand-chose, je sais, » dis-je à la mère en moi. « Mais c'est le mieux que je puisse faire pour être près d'eux. » Je venais d'apprendre à une femme que j'avais perdu un enfant. C'était avant que j'en perde un deuxième. Ses yeux se sont illuminés. « Moi aussi, j'ai un petit prince au ciel, » s'exclama-t-elle. Elle avait perdu un fils très tard dans sa grossesse, une naissance prématurée avec complications. Pour elle, nous étions des femmes singulières. Singulières? Jamais je n'avais envisagé les choses sous cet angle. Nous savons quelque chose que bien peu de gens savent, précisa-t-elle. C'est vrai, j'ai vécu des événements exceptionnels. Jamais je n'aurais pu imaginer l'amour qui m'a submergée à la naissance de mon premier enfant. Mon cœur s'est agrandi. Une partie de moi que je ne connaissais pas s'est embrasée de lumière. De la même façon, je ne m'attendais pas aux métamorphoses qui se sont enclenchées en moi quand il est mort dans mes bras. Jamais je n'aurais prévu ce fabuleux privilège qui m'a été donné de le tenir contre moi, de son arrivée dans le monde jusqu'à son départ. Depuis que j'ai perdu deux enfants, je ressens plus de compassion pour les autres. Je comprends mieux. Je n'accorde plus autant d'importance aux détails insignifiants. Je discerne mieux l'essentiel. La mort de mes fils reste une perte irréparable. Mais j'accueille avec gratitude certains des changements qu'elle a catalysés. Cette dualité ne va pas de soi. Je pourrais dire, bien sûr, que j'aurais préféré ne pas savoir, que je me serais volontiers contentée d'insatisfactions plus quotidiennes, de difficultés plus triviales. Je sais des choses que je n'ai pas cherché à savoir. Mais la conscience de cette singularité, parfois, m'aide à contempler plus sereinement le gouffre que je sens entre les autres parents et moi. J'ai pris soin de mes fils dans un temps fini, un espace connu. En pensée, je peux revoir toute leur vie, repartir en arrière, la revoir encore. Il n'y a plus lieu de se demander ce que ces deux enfants deviendront. Tels des esprits, les souvenirs décochent des coups de pied à l'intérieur de moi. Mon ventre de vergeture garde leurs traces fantomatiques bien au chaud, protège leurs silhouettes qui se dessinent encore au-dessus de la couture laissée par la césarienne à la naissance de Ford. En 2017, les esprits ont reçu de la visite. Est-ce que j'ai des enfants? Oui. Combien? Trois. Deux fils et une fille. Quand ma fille est née, un mot m'est monté aux lèvres. Waseya. W-A-S-E-Y-A-W. Une lumière s'allume. Au fil des ans, ma fille fera la connaissance de ses frères par les photos, les récits. Elle saura qu'elle s'inscrit dans une fratrie. Parcourant du bout des doigts les lignes sur mon ventre, elle comprendra que ses frères sont venus au monde au même endroit qu'elle. Je prends soin d'elle à l'infini. Je prends soin d'elle vers l'inconnu. Les voici, mes enfants. Des échos, des cicatrices, et une lumière à faire éclater le cœur. Krista Couture est musicienne, écrivaine, animatrice et conférencière. Ses textes ont notamment été publiés dans les magazines Room, Shameless et Augur et sur le site de la CBC. Son premier livre, How to Lose Everything, dont est tiré ce chapitre, est paru chez Douglas et McIntyre en 2020. Elle vit à Toronto. Diplômée en sciences politiques, en prévention et règlement des différends et en études autochtones, Catherine Ego est traductrice littéraire, autrice, performeuse et médiatrice. Lauréate du prix du gouverneur général en traduction 2016, elle enseigne la traduction littéraire à l'Université Concordia et à l'Université de Montréal. C'était « Les voici mes enfants », un texte de Krista Couture, traduction par Catherine Ego, paru dans l'édition Printemps-été 2022 dans le magazine Nouveau projet.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Nicolas Wartman à la recherche, à la présentation et au montage.